L'heure de journal qui nous est présentée par Louis Crépeau. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Près de 150 000 personnes attendues dans la rue partout en France. Plus de 250 manifestations sont prévues aujourd'hui en ce 1er mai. Dans le viseur des syndicats, notamment la réforme de l'assurance chômage. Le choc à Londres après une attaque à l'épée hier. Un jeune a été tué et 4 personnes ont été blessées. La piste terroriste est pour le moment écartée. Et puis c'est une tradition, vous allez sûrement acheter du muguet aujourd'hui. Eh bien, il pourrait bien vous coûter plus cher cette année. Explication à la fin de ce journal. Le 1er mai, nous exigeons de mieux vivre. Voilà le mot d'ordre de la CGT pour les traditionnelles manifestations de la fête du travail. 265 manifestations sont organisées un peu partout en France. Le syndicat se prépare notamment à de nouveaux bras de fer avec le gouvernement. Un an après la très contestée réforme des retraites, c'est la réforme de l'assurance chômage du gouvernement qui pose problème. Écoutez Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT.
La situation est systématiquement la même, c'est-à-dire qu'on sur les plus fragiles, sur ceux qui sont privés d'emploi. Toutes celles et ceux qui ont été confrontés à un moment donné de leur vie au licenciement savent de quoi nous parlons. On est toutes et tous un jour potentiellement confrontés par la perte d'emploi, par être privés d'emploi. Aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il tape sur les plus fragiles, ceux qui seront le moins en capacité de résister et se mobiliser. Diminuer le droit de ceux qui n'ont plus d'emploi, c'est être prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et donc, on va tout faire pour les empêcher de mettre en place cette contre-réforme scélérate.
Pendant cette mobilisation, la CGT demandera notamment la hausse du SMIC à 2000 euros par mois et l'indexation des salaires sur l'inflation. Elle a eu également une marche blanche samedi à Châteauroux pour rendre hommage à Matisse, cet adolescent de 15 ans tué samedi dernier. Cette marche devrait passer devant les lieux qui comptaient pour le jeune garçon, son école, sa maison ou encore le restaurant de ses parents. Pour rappel, dans cette affaire, un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Sa mère a, elle, été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Des scènes d'horreur hier à Londres. Un homme de 36 ans armé d'une épée a été interpellé dans les rues de la capitale britannique. Il est suspecté d'avoir tué un jeune adolescent de 14 ans, mais aussi d'avoir blessé 4 autres personnes. Que sait-on de cette attaque pour l'instant, Louis Crépeau ?
Eh bien, la police a été appelée vers 7h du matin hier, heure locale. Ce sont des habitants des alentours de la station de métro de Hainaut, dans le nord de Londres, qui ont donné l'alerte. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit un homme avec une courte barbe et un pull avec une capuche jaune, épée à la main, entouré de voitures de police. L'individu a finalement été interpellé à l'aide d'un pistolet à propulsion électrique. Et près de 20 minutes plus tard, un jeune garçon de 14 ans a donc été tué. Les 4 autres personnes blessées, dont 2 policiers, ont été hospitalisées. Pour l'instant, la piste terroriste a été écartée.
Et le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a réagi sur ses réseaux sociaux après cette attaque. Il a dénoncé un incident choquant. C'est une nouvelle avancée pour le climat. Pour la première fois dans l'histoire, les pays du G7 ont trouvé un accord pour fermer les centrales à charbon de leur pays d'ici 2035. Une étape clé pour la transition écologique. Retour en France avec cette aide de l'État après la fermeture de la 13. Il promet de prendre en charge 50% du péage de la 14 pour les covoitureurs. Une mesure qui s'appliquera à partir de 2 personnes dans un véhicule et jusqu'à la date de remise en service de la 13. La portion de cette autoroute fermée depuis le 18 avril doit rouvrir progressivement le 11 mai prochain dans le sens Provence-Paris. Du muguet plus cher en ce 1er mai entre aléas climatiques et maturité précoce ou coût de la main-d'œuvre en hausse. Les producteurs n'ont pas eu d'autre choix que d'augmenter leur prix. Les explications d'Éric Arouette, producteur à Nantes.
Bon, nous, on a essayé d'augmenter le prix de 4 à 5% cette année. On a toujours été le pied sur la pédale de frein, ce qui est sorti avec 8 jours d'avance. Et on l'a tenu dans le noir le maximum. Après, les étudiants, on pouvait les avoir qu'à partir du 20 avril. Et nous, on a cueilli les brins à partir du 14 avril. Donc, on a perdu des brins par rapport au manque de main-d'œuvre. On a été obligé d'aller chercher des intérimaires espagnols. Tous les ans, il faut planter. On part pour 5 ans, on fait que 3 récoltes sur la même parcelle. Et puis, on n'a pas forcément toujours des bonnes récompenses par rapport à la météo et par rapport au personnel qu'on a pas. Quoi.
Et notez que vous pouvez ramasser votre muguet en forêt pas plus de 10 à 15 tiges par personne, règle fixée par la loi. Le foot, pas de vainqueur hier soir entre le Bayern Munich et le Real Madrid. De partout dans ce premier match des demi-finales allées de la Ligue des Champions. Ce soir, on retrouve le Paris Saint-Germain. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Borussia Dortmund. Coup d'envoi 21h en Allemagne. Et puis, fin de parcours à Madrid pour Rafael Nadal. L'Espagnol s'incline face à Jiří Litvínenko. Montpellier et 42-7 en huitième de finale. C'était peut-être le dernier match de sa carrière sur le sol espagnol. Très belle journée à tous.
Louis Crépeau, que nous allons retrouver dans un instant pour nous parler cinéma et qui reviendra pour l'actualité tout à l'heure aux alentours de 9h moins le quart. Mais tout de suite, nous allons prendre des nouvelles de la météo.
Bretagne 5, Stéphane Hamon. Le 7-9.
Et c'est une journée de 1er mai, grise et pluvieuse qui nous attend. C'est une nouvelle perturbation qui a abordé la pointe Bretagne la nuit dernière et qui va se décaler lentement vers l'est, apportant un temps gris et pluvieux sur l'ensemble de la région avec des averses plus marquées des Côtes d'Armor à l'Ille-et-Vilaine jusqu'au bassin nantais. Cet après-midi, le temps va rester perturbé et le ciel bien gris. Seul le littoral atlantique restera quelque peu à l'écart de la perturbation avec de belles éclaircies qui alterneront avec des passages nuageux. Sur le reste de la région, les pluies, parfois accompagnées de coups de tonnerre, seront nombreuses et soutenues par endroits. Dans le courant de la journée, ces pluies vont gagner l'est de la Bretagne et les pays de la Loire. Côté température, les minimales vont de 8 à 11 degrés ce matin. Dans la journée, les maximales seront comprises entre 13 et 15 degrés localement, jusqu'à 16 degrés.
Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Et tout de suite à 8h06, c'est Louis Crépeau qui nous rejoint pour nous parler cette fois-ci de cinéma.
De l'action, de l'humour et de l'amour, un film déjanté à l'affiche cette semaine. Ryan Gosling est à l'affiche de The Fall Guy dans un genre dans lequel il excelle, la comédie, comme il l'a déjà montré dans Crazy Stupid Love, The Nice Guys ou encore The Big Short. L'acteur canadien sait être très drôle, et surtout dans des films fous comme celui-ci réalisé par David Leitch, une adaptation de la série L'Homme qui tombe à pic. Ryan Gosling incarne un cascadeur un peu déprimé mais surtout très amoureux de sa réalisatrice interprétée par l'excellente Emily Blunt. Alors entre deux scènes à se faire renverser par une voiture ou prendre feu et cette histoire d'amour, il va devoir mener une enquête qui va très vite le dépasser.
J'avoue, je suis pas le héros de cette histoire. Seulement le cascadeur. J'essaie d'avoir l'air cool devant la réelle du film. Je la kiffe grave. Il y a juste un petit problème.
La star de ce film,
Tom Ryder,
a disparu. Il faut que tu le retrouves.
Pourquoi moi ?
Les cascadeurs. Que tu sois là ou pas, personne ne le remarquera. Je le prends pas mal.
Ah bah... un peu, si.
Il s'est mis à fréquenter des mecs vraiment très louches. Et ils vont pas aimer te voir fouiner.
Les méchants passent à l'attaque.
On va te cacher.
Non, on va lui mettre une dérouillée de l'espace.
Rien ne vaut un bon twist.
Tout le monde aime les twists.
Et pour mettre en lumière son ancien métier, David Leitch propose un mélange des genres plutôt rare et très réussi, autant d'action que de romance, et surtout un humour délirant porté par un excellent duo. The Fall Guy, c'est en salle aujourd'hui.
Louis Crépeau nous parlait cinéma, les sorties à ciné sur Bretagne 5, comme chaque mercredi, et puis vous pourrez retrouver le cinéma tout à l'heure à 17h avec Toiles et Sillons. On écoutera de la musique signée de l'excellent Ennio Morricone. Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. Frédéric Coster sera avec vous tout à l'heure à 17h. Mais tout de suite, lui, il est là, fidèle au poste, à 8h09. David Christoffel qui nous rejoint pour son horoscope des méchants. Bonjour.
Bonjour tout le monde, Balance. Alors vous savez bien que si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez beaucoup plus heureux, parce que c'est surtout les autres qui vous en empêchent. Poisson, que vous fassiez des vagues ou que vous n'en fassiez pas, eh bien ça risque de revenir à peu près au même. Le plus triste étant que ce sera toujours très courant. Cancer, vous n'y couperez pas. Un jour ou l'autre, il vous faudra vous expliquer, ne serait-ce que devant les 10 informels tribunaux révolutionnaires. Vierge, vous êtes un moderne, à n'en pas douter. Pourtant, rien de neuf. Bon, et alors voilà quoi. Scorpion, vous êtes purement excellent. Vous n'êtes non pas génial par contre. Lion, vous êtes tellement stratégique vous que vous dégoûtez les autres de toute stratégie, voilà qui n'est pas du tout prosélyte, genre c'est sûr au moins. Gémeaux, abstenez-vous de vos considérations à deux balles, je veux dire ça, sur le monde des entreprises, tout ça, on est quand même la fête du travail quoi. Verseau, si vous n'êtes pas souriant et compréhensif, ne soyez pas frileux parce qu'il y a toutes les chances que vous deveniez mendiant. Sagittaire, votre lyrisme à vendre votre petite entreprise indépendante, ça devient pesant. Capricorne, votre plaidoyer contre les responsables du marché, même les petits, ça devient surtout nunuche. Bélier, donc abstenez-vous à votre tour, je veux dire, des considérations à deux balles. Et puis Taureau, comme tout le monde, comparez les qualités-prix des voisins, des forfaits portables, internet, et puis voilà tout.
Et même le 1er mai, on va être sage, figurez-vous David. David Christophe, l'horoscope des méchants, qui revient demain, dans un instant, à 8h15, notre invité politique de la matinale sera Maxime Bergonzo, candidat de la France insoumise aux européennes. Il sera avec nous en direct au micro de Bretagne 5 matin. Le temps pour nous d'écouter un petit peu de musique. Et tout de suite, voici Brazil 70, The Rebels of Tijuana.
Je ne veux plus.
Libre, ça c'était pour la musique. Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et en ce 1er mai, nous sommes en compagnie de Maxime Bergonzeau, candidat de la France insoumise aux européennes. Et il est venu depuis l'Ille-et-Vilaine, il a traversé presque la Bretagne et même la forêt de Brocéliande, m'a-t-il dit, pour être avec nous ce matin au micro de la matinale. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour Bretagne 5, bonjour Monsieur Hamon.
Alors on va parler de politique, on va parler de LFI évidemment et de la campagne électorale des européennes, campagne électorale, j'allais presque dire sous haute tension, c'est peut-être un terme un peu fort, mais c'est une campagne électorale qui n'est pas sereine. Alors on va parler dans un instant des quelques chahuts des étudiants à la Sorbonne et à Sciences Po, mais je voulais vous entendre tout d'abord sur le discours d'Emmanuel Macron précisément à la Sorbonne la semaine dernière. On a qualifié ce discours de campagne, de discours très pro-européen. On a entendu des observations du monde politique. Je voulais entendre des observations de LFI.
Bah écoutez, merci de me poser la question. Oui, alors le discours de Macron, c'est vrai, on peut en parler 1h48. 1h48, une matinée de semaine. Est-ce que vous, monsieur Hamon, en pleine semaine, vous écoutez des discours de presque 2 heures. Moi, non. Hein. À cette heure-là, je travaille. D'ailleurs, je pense que la plupart des étudiants travaillaient aussi. Et finalement, ce discours, il était pour qui ? Il était pour le patronat, pour les ambassadeurs, pour les actionnaires, mais certainement pas pour les gens comme vous et moi, pour la France qui travaille. Et je tiens à dire, déjà, je vais m'arrêter un petit peu sur la forme de ce discours d'Emmanuel Macron. 1h48, un discours de 2 heures, que des mots. Et des discours qui devaient tout changer, il y en a eu plein avec Emmanuel Macron. Moi, je travaille dans le secteur agricole, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2017, il y avait eu le discours de Rungis, qui était censé complètement changer la rémunération des producteurs. Ça n'a rien changé. Il y a eu 4 lois depuis, 4 lois Egalim, et ça a fini dans un mouvement massif des paysans tout récemment. Et donc, on voit bien que les gens, ils en ont marre des mots. Et en fait, il y a un verbe, mais il n'y a plus d'action. Et je pense que ça décrédibilise vraiment la parole politique. Et enfin, j'espère quand même que ce discours d'1h48 sera décompté du temps de campagne de la candidate macroniste.
Oui, l'ARCOM y réfléchit. Hein. Bah, j'espère. L'ARCOM a été saisi.
Alors après, sur le fond, donc, on a un discours qui est structuré en 3 axes. Hein. Donc la puissance, la prospérité et l'humanisme. Alors, sur la puissance, il ne parle que de guerre. Moi, je m'étonne qu'on interdise à l'université des meetings pour la paix, mais par contre, des discours sur la guerre, là, il n'y a pas de problème. Il parle notamment de la guerre en Ukraine, je pense qu'il ne mesure pas le risque réel d'une escalade vers un conflit nucléaire. Alors moi, qu'on soit très clair, à la France insoumise, on condamne depuis le premier jour l'agression de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Maintenant, je pense qu'il faut quand même être sérieux, être responsable. On a 2 puissances nucléaires qui sont face à face, la France et la Russie.
Avec un déséquilibre.
Et il faut vraiment qu'on fasse très attention à ce qu'on dit et qu'on cherche la désescalade. D'ailleurs, il y a d'autres pays européens qui le font. Hein. La Suisse et l'Allemagne ont lancé un processus de paix pas un processus de paix, mais des discussions sur la paix avec l'Ukraine. C'est une initiative qui est tout à fait intéressante. Il n'en a pas parlé une seule minute dans son discours. C'est bien dommage. Et puis, il parle aussi de partager l'arme nucléaire. Alors, on ne sait pas très bien si c'est avec l'OTAN, si c'est avec l'Union européenne. Et là encore, ça me semble être quelque chose de tout à fait dangereux. C'est totalement en contradiction avec notre doctrine sur l'arme nucléaire et la dissuasion nucléaire depuis près de 50 ans. Et je pense que c'est pas du tout à la hauteur. Voilà, donc j'étais assez estomaqué par cette partie sur la puissance. Et puis ensuite, il enchaîne sur la prospérité. Alors, sur la prospérité, là encore, il y a beaucoup de choses hallucinantes qui ont été dites. Déjà, il parle de revenir sur les garde-fous qui ont été mis en place pour le secteur financier suite à la crise des subprimes de 2007. Et là, je m'interroge. Il a dit, alors je ne cite pas mot pour mot, mais il a dit en gros qu'il fallait remettre en place de la culture du risque dans la gestion de l'épargne des Européens par les banques et les assurances. Qu'est-ce que ça veut dire ?
On va prendre l'épargne des Européens.
Eh bien, vous posez une bonne question, monsieur Hamon. Est-ce que notre épargne, la vôtre, la mienne, va servir à financer les start-up, des marchés à risque? Est-ce que, alors là, du coup, on comprend mieux la stratégie d'Emmanuel Macron sur les retraites, de casser la retraite par répartition, de mettre en place la retraite par capitalisation, et puis ensuite de donner cet argent à ses amis les financiers, pour faire quoi? Ben pour nous faire les poches. Donc voilà, après avoir vidé les caisses du pays, Monsieur Macron s'apprête à faire les poches aux Français. Il n'y a pas d'autre.
Avec la dette aussi, il faut noter qu'on a une dette assez importante, 5,5% du PIB. Vous imaginez que demain, on puisse demander aux Français de partager leur épargne pour éponger la dette?
En tout cas, moi, je veux dire que ces règles d'austérité imposées par l'Union européenne, la fameuse règle des 3% du déficit public, elle n'a ni queue ni tête, la Banque Centrale Européenne l'a fait pendant le Covid. Elle peut emprunter, elle peut prêter de l'argent directement aux États, et donc ça, c'est plutôt ces pistes qui doivent être fouillées plutôt que d'aller chercher dans l'épargne des Français. Enfin, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, sur la prospérité, il parle aussi d'agriculture. Et là, encore une fois, il se contredit. Alors, pendant le salon de l'agriculture, alors moi, je veux le dire, il y a une crise agricole.
Qui est toujours en cours.
Qui est toujours en cours. Et la crise agricole, c'est d'abord une crise du revenu des agriculteurs. Et les agriculteurs, ils ont martelé pendant des mois, on veut du revenu, on veut du revenu, on veut du revenu. Et ils ont bien raison. Sans revenu, il y a pas de pérennité du métier. Et donc ça avait abouti pour que finalement Emmanuel Macron, traqué au salon de l'agriculture, finisse par lâcher le fait que il faut des prix planchers. Mais là, ça a totalement disparu du discours. Ça y est, c'est réglé. On a changé un petit peu les règles de la PAC à Bruxelles, il y a plus de crise agricole. Là encore, il se contredit.
Est-ce que finalement, Emmanuel Macron a les mains libres sur l'agriculture? Est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut ou est-ce que c'est finalement Bruxelles qui décide?
Mais en fait, si vous voulez, moi je pense que la France, elle a quand même un rôle pour dénoncer justement les accords de libre-échange qui sont négociés en catimini par Bruxelles. Enfin, je veux dire là, il refuse de remettre au débat à l'Assemblée nationale l'accord CETA qui a été décidé donc en catimini à Bruxelles sans être ratifié par beaucoup d'États, et donc il y a eu un vote récemment au Sénat. On s'attendrait à ce que maintenant il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Il n'en veut pas. D'ailleurs, il n'a pas remis en cause dans son discours. Il a défendu, forcément, il faisait un discours pour les patrons. Qu'est-ce que vous attendez? Et donc il a défendu les accords de libre-échange. Il a défendu l'accord avec la Nouvelle-Zélande. L'accord avec la Nouvelle-Zélande, c'est celui qui a détruit la production ovine française. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez faire du mouton en France quand il arrive par conteneur entier de l'autre bout du monde dans des conditions de production qui sont, et même des conditions salariales qui sont pas du tout les mêmes que les nôtres?
On pourrait parler de l'environnement également avec le transport.
Tout à fait, avec les accords de libre-échange. Pourquoi produire à l'autre bout du monde et importer ce que on peut très bien faire ici, du mouton sur les landes de Brocéliande, c'est tout à fait possible.
Mais voilà. Ça s'appelle le circuit court finalement.
Exactement, exactement. Et Emmanuel Macron est contre. Et enfin, pour finir sur son discours, l'humanisme. Alors, là, je m'attendais. Je me suis dit, c'est bon, c'est pour nous, là. C'est pour, C'est le social, il arrive. Rien du tout. Enfin, si, il y avait sa vision du social. Attendez, j'ai noté parce que... Il veut mettre en place un programme des solidarités européens pour accompagner les initiatives contre les États et la précarité. 15 secondes, ça a duré à peu près autant de temps que là, ce que je viens de vous dire. Sa vision sur le social, sur 1h48 de discours, c'est 15 secondes. Mmh. Voilà. Je pense que ça prouve bien le mépris qu'il a pour cette question-là. Il l'a prouvé avec les retraites. Il l'a prouvé avec la réforme de l'assurance chômage. Il le prouve en refusant d'encadrer les rémunérations des grands patrons. Et il l'a prouvé une nouvelle fois dans son discours à la Sorbonne. Alors, donc voilà, je pense que on a fait le tour sur ce sujet, mais moi j'étais vraiment très énervé.
On vous sent très très énervé.
À l'écoute de ce discours.
Maxime Bergonzo, on a vu aussi évidemment LFI réagir plus largement à ce discours et réagir aussi à un autre aspect qui est peut-être un peu plus franco-français. Nous parlons là de politique intérieure avec des interdictions récentes des conférences de Jean-Luc Mélenchon et la controverse aussi autour de Rima Hassan, qui est sur la liste conduite par Manon Aubry, la liste La France Insoumise. Là aussi, on a l'impression qu'il y a une forme de cristallisation autour de LFI. Alors j'imagine que vous allez me dire que LFI n'est pas révolutionnaire et ne va pas déclencher mai 68 ou encore une révolution comme on a pu l'entendre sur certains médias.
Je m'interroge sur la méthode. Dans quel pays démocratique on interdit des conférences? Dans quel pays démocratique on convoque à la police, on convoque dans un commissariat de police la présidente de l'un des principaux groupes d'opposition à l'Assemblée nationale.
Alors Mathilde Panot et Rima Hassan qui ont été convoqués hier,
oui. Exactement, dans un commissariat du nord de Paris. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le mouvement de soutien contre la censure et contre la répression qui s'est manifesté hier, mais qui se manifeste aussi par la prise de position de figures médiatiques. Hein. Je pense par exemple à l'humoriste Guillaume Meurice qui est intervenu à d'autres voix de la démocratie finalement. Mmh. Et c'est heureux. J'espère que la démocratie ici sera plus forte que la censure finalement. Et c'est là la question. Moi, je pense que dans une période électorale, il y a quelque chose qui doit être consacré, c'est le droit au débat. Et aujourd'hui, ce droit au débat, il n'est pas respecté. Et
ce qui a été reproché, pardonnez-moi, c'est peut-être le lieu que choisit, c'est peut-être l'université. Est-ce que,
Mais attendez, on vient d'en parler tout à l'heure. Mmh. Emmanuel Macron a fait un discours à la Sorbonne.
Mmh, qui a été occupé brièvement, évacué.
Hein. Il n'y avait pas d'étudiants dans le public. C'est peut-être ça qui gêne finalement, mais moi je vous dis, j'en suis l'un des exemples, mais il y a une foule de jeunes qui s'est levée et qui s'est engagée avec la France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Mathilde Panot, avec Rima Hassan, et c'est heureux de voir des jeunes qui s'engagent en politique. Moi je ne comprends pas cette fixette qu'il y a à vouloir nous interdire de prendre la parole dans l'espace public, à interdire des rassemblements. Et ça va, en fait, pour moi, c'est l'aboutissement d'une politique répressive, d'une forme de dérive autoritaire qu'il y a en France. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, il y a le rapport d'Amnesty International qui est paru il y a peu et qui dénonce les entraves au droit de manifester dans notre pays. Et c'est problématique et il faut lutter contre ça.
Est-ce que LFI paie finalement sa prise de position pro-palestinienne? On sait que LFI a soutenu le mouvement palestinien. On a reproché plus largement à LFI de ne pas avoir condamné le Hamas, en tout cas ne pas l'avoir considéré comme une organisation terroriste. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui LFI paie le prix fort par rapport à ses prises de position?
Bon, déjà, la France insoumise, elle a une position de paix. C'est pas une question d'être pro-palestinien, pro-israélien, etc. Tout le monde a le droit de vivre. Et ce qu'il faut, c'est construire la paix. Aujourd'hui, on est dans une culture de guerre. Et nous, ce qu'on propose, c'est un cessez-le-feu immédiat. C'est bien sûr le retour des otages, mais c'est arrêter avec cette tuerie de masse qui a lieu en, en Palestine. Moi, j'ai arrêté de compter les morts. Malheureusement, à l'époque où je m'y intéresse un petit peu plus, on était à 30 000 morts, dont 40% d'enfants. Mm-hmm. Une situation qui est inacceptable pour tous les démocrates, je pense, de ce pays. Et donc, c'est ça qu'on porte, c'est la voie de la paix. Madame Hassan, que j'ai rencontrée d'ailleurs par ailleurs, puisque c'est l'une de mes colistières et qui a de bonnes chances d'être élue députée européenne et qui portera cette voie de la paix au Parlement européen, a condamné dès le début les attaques du Hamas du 7 octobre. Et elle, ce qu'elle prône, c'est une voie de la paix, c'est trouver une solution à ce conflit. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui ne doit laisser personne indifférent. Tout le monde doit prendre position et doit dire s'il est du côté de la paix ou du côté de la guerre. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais intervenir. J'ai vu que en 2023, le Conseil régional de Bretagne, alors c'était avant les attaques du 7 octobre, je veux pas faire de procès d'intention, a voté une subvention de 150 000 euros au groupe Thales, dont on sait aujourd'hui qu'il fournit l'armée israélienne. Bon, je pense que maintenant, il y a besoin d'une clarification. Mmh. Il y a besoin que l'ensemble des forces politiques en Bretagne appellent au cessez-le-feu, appellent à la paix, et c'est vraiment important, c'est le rôle de notre pays d'aller d'être en tout cas un artisan pour que le conflit se résolve.
Avec cette idée de deux États, hein, on entend beaucoup cette idée de paix à deux États. C'est faisable selon vous? C'est quelque chose qu'on peut espérer?
Bah écoutez, en tout cas, il faut trouver par le biais de, dans le cadre international, dans le cadre de l'ONU, une solution pour que les Palestiniens et les Israéliens puissent vivre ensemble sur ce même pays, quoi, dans ce même pays. Une solution à deux États, je pense qu'elle est importante, elle est nécessaire, mais c'est avant tout aux gens sur place, je pense, de trouver des solutions pour vivre ensemble, pas que juste cohabiter, mais vivre ensemble de manière pacifique.
Alors on a le conflit qui s'est importé chez nous en France, plus largement en Europe. On a vu l'engagement des étudiants pour la cause palestinienne, c'est un engagement turbulent qui fait des vagues. On a vu aussi, hélas, le corollaire, c'est-à-dire les actes antisémites qui ont augmenté ici en France. Il y a urgence à apaiser.
Oui, après, il y a urgence à apaiser, mais entre guillemets... C'est pas la première fois qu'il y a des étudiants qui se mobilisent pour la paix. Mmh. Hein, en 1968, qu'est-ce qui a lancé le mouvement des étudiants en 1968? C'est la guerre contre le Vietnam.
Le Vietnam, effectivement.
Voilà. Mmh. Donc, on a une culture dans notre pays, et là encore, je trouve que c'est très positif, d'étudiants qui se mobilisent pour la paix. Et donc, ils se sont mobilisés pour la paix, là, récemment, donc je crois ils ont occupé Sciences Po là récemment.
Sciences Po, là aussi ça a fait des vagues.
Je crois que depuis hier également il y a eu une occupation de Sciences Po Rennes qui est en cours. Donc j'adresse tout mon soutien aux étudiants qui se mobilisent ensemble pour la paix. Moi je trouve ça très bien que des étudiants s'intéressent aux grandes problématiques de ce monde, qui se mobilisent pour la paix. Je pense que c'est pas parce que on se mobilise pour la paix que on doit être taxé, je ne sais pas moi, d'antisémite. Enfin,
oui, ce sont les mots qu'on a entendus.
Oui, mais enfin, c'est complètement faux. Mmh. C'est n'importe quoi.
Il y a eu des problèmes dans les universités, que ce soit à Paris ou même ici à Rennes, avec des étudiants juifs qui ont été parfois un peu molestés par des étudiants plutôt pro-palestiniens. Là aussi, c'est des choses qui ne devraient pas exister.
Non, mais personne ne doit être agressé de par ses convictions religieuses ou... Enfin, personne ne doit être agressé, c'est tout. Mais je pense que... Et à mon avis, c'est pas du tout le... Enfin, ce que vous dites, c'est pas ce qui se passe dans les universités.
C'est pas représentatif.
C'est pas représentatif. Les manifestations qui ont lieu dans les universités, c'est des manifestations pour la paix, entre la Palestine et Israël, et c'est bien ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qu'on appelle avec Rima Hassan, toute notre liste pour les élections européennes.
Alors on va en parler des élections européennes et des grands sujets qui sont portés par LFI. On va parler de la justice sociale. Vous reprochiez tout à l'heure au discours d'Emmanuel Macron de ne pas avoir tellement parlé de social finalement. C'est important aujourd'hui qu'il y ait un équilibre social, qu'il y ait une justice sociale en Europe.
Ah oui, bien sûr. Bah écoutez, deux exemples. Le premier, ce matin, là, j'écoutais la radio. Donc, les patrons du CAC 40 sont payés en moyenne 130 fois ce que reçoivent leurs salariés. Bah, pour nous, c'est inacceptable.
Ça prend tout son sens quand on raisonne voilà. Un 1er mai, jour de fête du travail.
Tout à fait, un jour de fête des travailleurs.
Des travailleurs,
désolé oui. De vous reprendre, monsieur Hamon. quoi d'autre sur la justice sociale ? Notre exemple, là, j'écoutais l'un de vos confrères à la radio, Emmanuel Macron a embauché deux économistes pour travailler sur la désmicardisation du pays. Quand même, ils se rendent compte, au bout de 7 ans, qu'on a un problème de rémunération dans ce pays, qu'on a un problème de pouvoir d'achat. Enfin. Et bien sûr, l'Union européenne, elle doit protéger les travailleurs. Et malheureusement, on n'en prend pas le chemin.
L'Europe sociale, c'est pas pour demain, finalement.
Ben, en tout cas, ça devrait l'être. Hein. Nous, on porte, avec notre groupe, des initiatives sur la justice sociale. On a porté, par exemple, avec Madame Chaïbi, donc qui est une de nos députées européennes, une directive pour encadrer le travail sur les plateformes. Vous savez, les fameux Uber, etc., Deliveroo, qui s'affranchissent de toutes les normes sociales, et c'est inacceptable.
Qui bien souvent sont implantées dans voilà, d'autres pays, finalement, qui n'ont pas les mêmes normes.
Et donc nous, on est arrivé d'ailleurs là-dessus au Parlement européen à faire bouger les lignes et à faire que ce travail sur les plateformes y soit encadré. On prône aussi, enfin, une refonte totale de la directive sur les travailleurs détachés. En France, il y a plus de 220 000 travailleurs détachés, c'est énorme. Et nous, on veut que ces travailleurs détachés, ils soient payés et ils bénéficient de la même protection sociale qu'un travailleur sous droit national français. Quoi.
Quelle que soit leur provenance en Europe.
Exactement. Et donc, c'est tout à fait important, je pense, qu'on mette en place des normes sociales équivalentes dans l'Union européenne, parce que sinon, c'est la course à la délocalisation et à la concurrence entre les travailleurs. Demain, on parle d'intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Nous, personnellement, on est contre. Ben pourquoi on est contre ? Parce que le salaire moyen d'un travailleur ukrainien, c'est moins de 400 euros par mois. Et que sans règles sociales,
on
va encore
finalement
créer une concurrence. Si on regarde l'Ukraine agricole, c'est 182 agri-holdings qui possèdent 4,5 millions d'hectares. Rendez-vous compte, hein, la Bretagne, c'est 25 000 fermes, 2,7 millions d'hectares.
Voilà, c'est très inégal.
Quand l'Ukraine bénéficiera de la PAC et du marché unique européen, on n'a plus besoin de la Bretagne agricole. C'est terminé. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment peser la question du social et de l'écologie comme étant un axe central de ce que doit être l'Europe demain.
Alors l'Europe demain, c'est aussi l'économie. On parlait tout à l'heure de la France avec son déficit au-delà des 5% du PIB. L'économie et la taxation des profits, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup à la France insoumise. Est-ce qu'on pourra demain taxer ces fameux super profits ? Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire un procès ici, mais on a des grandes sociétés comme Total et d'autres qui font beaucoup de profits. Est-ce qu'elles peuvent participer à l'effort national et plus largement à l'effort européen ?
Oh ben j'ai un petit peu des doutes avec Madame von der Leyen. En tout cas, ça va pas être possible. Hein. Madame Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, après être intronisée fin 2019, la première chose qu'elle a fait, c'est aller donner son programme au Forum économique de Davos, où il y a justement tous ces grands patrons, ces super profiteurs qui se retrouvaient. Ça, elle l'a fait dès janvier 2020. Nous, évidemment, on est pour la taxation des super profits. On avait déjà proposé cette loi dans le cadre de la NUPES, ce qui prouve d'ailleurs l'importance d'un travail commun de toutes les forces de gauche Elle n'est pas, malheureusement, cette proposition de loi qui demandait une taxe exceptionnelle de 25% des superprofits sur les sociétés pétrolières, gazières, de transport maritime et de concessionnaires d'autoroutes, elle n'est pas passée. Le vote a été raté à 10 voix près. Mmh. Je pense que c'est à reprendre. C'est une proposition qui est à refaire et c'est important, c'est une question de justice sociale. Donc, on va remettre ça sur le métier, comme on dit.
Voilà, l'ouvrage sur le métier.
C'est ça. Et on va travailler pour la taxation des superprofits, mais plus globalement, pour qu'il y ait plus de justice fiscale dans ce pays et en Europe. Et ça, je veux dire, on est les seuls à le faire. Le Rassemblement national, qui se présente comme l'un des grands défenseurs du peuple, du pouvoir d'achat, il ne pose pas cette question de la justice fiscale. Le Rassemblement national a voté en mai 2023 contre l'impôt sur la fortune, la fortune européenne. Ils ont voté contre l'élargissement de la taxe sur les superprofits à tous les secteurs en octobre 2022. Mmh. Donc vous voyez, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de cohérence à gauche. Quand on est à gauche, on est pour la justice fiscale, on est pour taxer les riches. Et donc, on est pour la taxe sur les superprofits.
Vous regrettez un petit peu que le Parti Socialiste, Place Publique, ne soit pas allé avec vous aux élections européennes
Et les écologistes, surtout.
Et les écologistes,
moi, j'aurais donné ma place pour une liste commune de la NUPES, bien sûr. Hein. Moi, je pense que face au péril de l'extrême droite aujourd'hui, on a un enjeu à faire vivre l'union de la gauche. On a proposé la tête de liste aux écologistes. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Enfin, moi, je m'interroge. Alors, ils nous ont dit, oui, mais bon, si on fait tous plus de 5%, eh bien, on aura plus de députés. Oui, mais enfin, il y a quand même une question de symbole, une question d'émulation sur le terrain, une question de faire campagne ensemble. On a travaillé, on a validé ensemble un programme commun de 650 mesures de la NUPES il y a 2 ans pour les élections législatives. Et là, vous retournez voir les électeurs avec un autre programme. Alors nous, c'est pas notre cas, un autre programme, c'est celui de la NUPES. Mais c'est un manque total de cohérence, je pense. J'espère que ce sera corrigé par la suite, qu'on retrouvera les voies de l'union de la gauche, à gauche, je le dis, parce que j'ai quand même de sérieux doutes sur l'ancrage à gauche de Monsieur Glucksmann. Je pense qu'il va, mais il va falloir qu'on retrouve le chemin de la discussion. À l'Assemblée nationale, cette discussion d'ailleurs, elle ne s'est pas arrêtée. Et c'est bien heureux. Et en tout cas, il faudra que sur le terrain, à nouveau, on y réfléchisse pour les prochaines échéances.
Il nous reste 2 petites minutes. Vous parliez du Rassemblement national, ça va très vite. Vous parliez de Rassemblement national tout à l'heure. On le voit crédité quand même de 32%, selon les sondages, 28 à 32% d'intention de vote. Est-ce que pour vous, la gauche, en règle générale, a raté quelque chose ?
Bah écoutez, mise toute bout à bout, si aujourd'hui il y avait qu'une seule liste de la NUPES, sans doute qu'avec l'émulation, ce serait, on parlerait de la bataille entre la gauche unie et le Rassemblement national.
Presque d'égal à égal finalement.
Tout à fait. Mais aujourd'hui, on sait que la France, elle est séparée en 3 blocs politiques, et il y a la question de savoir qui va être majoritaire dans ce pays. Je le dis, je pense que le Rassemblement national ment aux Français en leur disant qu'il va régler leurs problèmes. Il ment aux Français en disant qu'il va régler le pouvoir d'achat. Et nous, la gauche, en tout cas la France insoumise, on prône et on propose des mesures de justice sociale et de justice écologique qui amélioreront concrètement la vie des Français en améliorant les salaires, en créant plus de justice fiscale, en mettant en place une véritable transition écologique de notre agriculture, de notre industrie, etc., en remettant en place les tarifs réglementés sur l'électricité.
Alors, on n'a pas parlé d'énergie, mais c'est important.
Et c'est ça qui va changer concrètement la vie des Français. C'est pas des divagations racistes de Monsieur Bardella ou de Madame Maréchal Le Pen qui vont régler quoi que ce soit aux problèmes des Français.
On parlait d'Europe ce matin, de politique, dans la matinale de Bretagne 5, en ce 1er mai, fête des travailleurs. Hein, vous m'avez repris tout à l'heure, je le précise, Maxime Bergonzo, candidat de la France insoumise aux européennes. Première radio.
Oui.
Première radio, vous voyez, ça s'est très bien passé.
Ouais, tout à fait. Je souhaite une bonne manifestation à tous ceux qui vont battre le pavé ce 1er mai, en tout cas.
Voilà, il y a plusieurs mouvements de prévus ici en Bretagne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci, au revoir.
Bretagne 5, le 7-9. Stéphane Hamon.
Et en ce 1er mai, pas de revue de presse. On vous retrouverez la revue de presse demain, je vous rassure. Nous allons écouter donc un petit peu de musique. Le temps pour moi de vous rappeler que tout à l'heure, à 8h50, Alexandre Hervé sera bien là pour son classique du matin et Meredith Ledez pour sa bulle poétique. Soyez rassurés. Tout de suite, voici la musique et cette chanson signée Alain Souchon, I'm 50s.
Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy, des gens qui rient, ils ont un petit peu froid, ces gens de Paris sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière, I'm 50s, I'm 50s, dans le radio là. Les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route ravie, en arrond de plein ciel qui rentre à Paris. Première, personne le ramasse quand il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est dégueulasse au salon de l'auto sous le dôme. Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme. Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, y'a un coiffeur. I'm 50s, I'm 50s. Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard, Monique, Frégate, Transfluide, Vedette, Abeille, Patrick, Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux, Renault, Roger, Jacqueline, René, Micheline. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise.
I'm 50s, Alain Souchon et toute la nostalgie des années 50 avec les mots de Souchon. Évidemment, vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et tout de suite, nous allons faire un point sur l'actualité avec Louis Crépeau.
Bonjour à tous. À la une des changements, ce 1er mai a commencé par une légère hausse du prix repère du gaz. La participation forfaitaire passe de 1 à 2 euros pour la consultation chez votre médecin. Si vous voulez suivre une formation, vous devrez débourser 100 euros pour utiliser votre compte personnel de formation. En revanche, bonne nouvelle, les modalités d'accès à MaPrimeRénov' sont élargies. Le diagnostic énergétique n'est plus obligatoire. Et puis, les logements F et G peuvent bénéficier de cette aide à la rénovation énergétique. Les manifestants de l'université de Columbia de New York évacués, la police est intervenue hier soir pour sortir et déloger l'ensemble des étudiants pro-palestiniens barricadés dans un bâtiment. Mobilisation contre la contre-offensive d'Israël dans la bande de Gaza. Un mouvement qui se propage sur la côte est américaine, mais également en France. Mobilisation sur les sites de Sciences Po Toulouse, Rennes, Lyon, Bordeaux et Strasbourg, dans le sillage du mouvement parisien. Le Royaume-Uni a expulsé son premier demandeur d'asile vers le Rwanda. Le gouvernement britannique a adopté la semaine dernière cette loi controversée. Elle lui permet d'expulser vers le Rwanda des réfugiés en situation irrégulière qui ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Une vague orageuse attendue sur le quart nord-est de la France. 14 départements sont placés en vigilance orange par Météo France, à savoir l'Île-de-France, la Picardie, ainsi que la Marne, l'Aube et Lyon. Les orages vont balayer les régions des Hauts-de-France à la Bourgogne avec de fortes pluies. L'alerte s'étend de la fin d'après-midi à la nuit prochaine. Le foot, le grand soir pour le PSG. Paris dispute ce soir la demi-finale aller de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. Les Parisiens de Kylian Mbappé sont favoris de ce rendez-vous. Coup d'envoi à 21h. Et hier soir, dans l'autre demi-finale, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont quittés sur un nul de partout. Et puis, c'est peut-être vous, le jackpot de 166 millions d'euros de l'Euromillion a été remporté en France hier soir. L'euro gagnant a 60 jours pour se faire connaître auprès de la FDJ. Sinon, son gain sera remise en jeu. Excellente journée à vous.
Loïc Repos était avec nous pour ce point sur l'actualité. Loïc qui revient tout à l'heure pour de nouvelles informations. Il sera 9h, ce sera la fin de la matinale. Mais tout de suite, nous allons écouter comme chaque jour de la musique classique. C'est l'heure du classique du matin, Alexandre Hervé.
Aujourd'hui, dans le classique du matin, le deuxième concerto pour cor en mi bémol majeur de Wolfgang Amadeus Mozart. Les quatre concertos pour cor de Mozart sont des œuvres importantes du répertoire professionnel pour cor. Mozart a composé ses concertos pour son ami Joseph Leitgeb, qu'il connaissait depuis l'enfance. Leitgeb était sûrement un musicien talentueux, car les concertos sont très difficiles à jouer, avec un cor naturel de l'époque, nécessitant des trilles, des notes bouchées et des coups de langue rapides. Je m'attarde ici pour souligner l'importance des relations amicales entre compositeurs et interprètes, qui ont donné naissance à des œuvres tout au long de l'histoire de la musique. J'évoquais par exemple, dans une autre chronique, le concerto pour main gauche, écrit par Maurice Ravel, spécialement pour un ami ayant perdu un bras lors de la Première Guerre mondiale. On peut en tout cas supposer que Mozart avait une grande confiance en son ami Joseph, étant donné le chef-d'œuvre qui résulte de leur amitié. Écoutons ce premier mouvement allegro, plein de majesté.
Thank you.
Alexandre Hervé était avec nous pour le classique du matin. Alexandre, qui revient demain dans la matinale. Je regarde à l'horloge du studio qui nous indique qu'il est déjà 8h58, l'heure de retrouver Meredith Ledez et sa bulle poétique qui est consacrée cette semaine au poème d'Erwan Rouget et à son recueil « L'enclos du vent ».
La bulle poétique. Meredith Ledez.
Cette semaine, dans la bulle poétique, j'ai le plaisir de vous faire entendre la voix d'Erwan Rouget à travers son recueil « L'enclos du vent » paru aux éditions Isabelle Sauvage en 2017 et accompagné des photographies de Magali Ballet. Il y eut la lenteur d'un feu et mille embruns fous. Leur fragilité frottée au noir souleva chacune de ses narines pour un étrange abandon. Le frêle de quelque chose inattendu. La bouche peuplée de sable et d'abeilles. L'amande douce, amère.
Meredith Ledez, la bulle poétique qui nous donne rendez-vous demain à la fin de la matinale. C'est quelques notes de musique, c'est quelques notes de jazz qui nous disent eh bien, que l'on va refermer ce Bretagne 5 matin que nous avons eu le plaisir de partager avec vous depuis 7h en direct en ce mercredi 1er mai avec toute l'équipe et ses petits bras de muguet. Frédéric Guillon était à la réalisation comme chaque jour, Nathalie Villalon à la coordination d'antenne. Christophe Hamon nous a apporté le muguet ce matin. Il revient demain, bien entendu, pour le jardin de Christophe. Votre serviteur Stéphane Hamon, on se donne rendez-vous demain. Je vous souhaite de passer une très belle journée à l'écoute des programmes de Bretagne 5. Reposez-vous bien en ce jour de fête du travail. Demain, nous serons là à 7h. Voilà, prenez bien note. Vous écoutez Bretagne 5, il est encore 9h.